La légende de Peugeot. Nos cousins chimpanzés vivent habituellement en petites troupes de plusieurs douzaines d'individus. Ils nouent des amitiés solides, chassent ensemble et se serrent les coudes contre les babouins, les guépards et les chimpanzés ennemis. Leur structure sociale a tendance à être hiérarchisée. Le membre dominant, presque toujours un mâle, est appelé mâle alpha. Les autres mâles et femelles montrent leur soumission au mâle alpha en s'inclinant devant lui tout en poussant des grognements à la manière des sujets qui font des courbettes devant le roi. Le mâle alpha s'efforce de faire régner l'harmonie sociale au sein de sa troupe. Quand deux individus se battent, il intervient pour faire cesser la violence. Avec moins de bienveillance, il pourrait monopoliser des aliments particulièrement convoités et empêcher les mâles subalternes de s'accoupler avec les femelles. Quand deux mâles se disputent la position alpha, ils le font habituellement en formant à l'intérieur du groupe de très larges coalitions de partisans, tant mâles que femelles. Les liens entre membres d'une coalition reposent sur des contacts intimes quotidiens, étreintes, caresses, baisers, toilettes et échanges de faveurs. De même que les politiciens en campagne serrent les mains et embrassent les bébés, de même, dans un groupe de chimpanzés, les aspirants à la position la plus haute passent beaucoup de temps à embrasser, taper sur le dos et bisouiller les bébés. Le mâle alpha conquiert habituellement sa position non pas par une force physique supérieure, mais parce qu'il dirige une coalition grande et stable. Ces coalitions jouent un rôle central non seulement au cours des luttes ouvertes pour la position alpha, mais dans presque toutes les activités au jour le jour. En temps de trouble, les membres d'une coalition passent plus de temps ensemble, partagent la nourriture et s'entraident. Il existe des limites claires à la taille des groupes qui peuvent se former et se maintenir ainsi. Pour que ça marche, tous les membres du groupe doivent se connaître intimement. Deux chimpanzés qui ne se sont jamais rencontrés ni battus et qui ne se sont jamais livrés à une toilette mutuelle ne sauront pas s'ils peuvent se fier l'un à l'autre, si cela vaudrait la peine de s'entraider et lequel est le plus haut placé. Dans des conditions naturelles, une troupe typique de chimpanzés compte entre 20 et 50 individus. Si le nombre de chimpanzés d'une troupe augmente, l'ordre social se déstabilise au point de déboucher finalement sur une rupture et sur la formation par certains éléments d'une nouvelle troupe. Les zoologistes n'ont observé des groupes de plus de 100 chimpanzés que dans une poignée de cas. Les groupes séparés coopèrent rarement et ont tendance à se disputer territoire et nourriture. Des chercheurs ont étudié de longues guerres entre groupes, et même un cas d'activité génocidaire avec une troupe qui massacrait systématiquement la plupart des membres d'une bande voisine. De semblables configurations dominèrent probablement la vie sociale des premiers humains, dont l'Homo sapiens archaïque. Comme les chimpanzés, les humains ont des instincts sociaux qui permirent à nos ancêtres de forger des amitiés et des hiérarchies, de chasser et de combattre ensemble. Toutefois, comme les instincts sociaux des singes, ceux des hommes n'étaient adaptés que pour de petits groupes d'intimes. Le groupe devenant trop grand, l'ordre social s'en trouvait déstabilisé et la bande se scindait. Même si une vallée particulièrement fertile pouvait nourrir 500 sapiens archaïques, il n'y avait pas moyen pour tant d'inconnus de vivre ensemble. Comment choisir qui serait le chef, qui devrait chasser et où, qui devait s'accoupler? Dans le sillage de la révolution cognitive, le bavardage aida Homo sapiens à former des bandes plus larges et plus stables. Mais lui-même a ses limites. La recherche sociologique a montré que la taille naturelle maximale d'un groupe lié par le commérage est d'environ 150 individus. La plupart n'en peuvent connaître intimement plus de 150. On retrouve la même limite quant aux bavardages efficaces. Aujourd'hui encore, le seuil critique de la capacité d'organisation humaine se situe autour de ce chiffre magique. En deçà de ce seuil, les communautés, les entreprises, les réseaux sociaux et les unités militaires peuvent se perpétuer en se nourrissant essentiellement de connaissances intimes et de rumeurs colportées. Nul n'est besoin de rang officiel, de titres et de codes de loi pour maintenir l'ordre. Un peloton de 30 soldats ou même une compagnie de 100 soldats peuvent parfaitement fonctionner sur la base de relations intimes avec un minimum de discipline formelle. Un sergent respecté peut devenir le roi de la compagnie et peut même exercer une autorité sur des officiers. Une petite affaire familiale peut survivre et prospérer sans conseil d'administration, ni PDG, ni service de comptabilité. Une fois franchi le seuil de 150 individus, cependant, les choses ne peuvent plus fonctionner ainsi. On ne conduit pas une division forte de milliers de soldats comme on dirige un peloton. Les entreprises familiales qui réussissent traversent généralement une crise quand elles prennent de l'importance et embauchent du personnel. Si elles ne savent pas se réinventer, elles font faillite. Comment Homo sapiens a-t-il réussi à franchir ce seuil critique pour finalement fonder des cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et des empires de centaines de millions de sujets? Le secret réside probablement dans l'apparition de la fiction. De grands nombres d'inconnus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs. Toute coopération humaine à grande échelle, qu'il s'agisse d'un État moderne, d'une église médiévale, d'une cité antique ou d'une tribu archaïque, s'enracine dans des mythes communs qui n'existent que dans l'imagination collective. Les églises s'enracinent dans des mythes religieux communs. Deux catholiques qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins partir en croisade ensemble ou réunir des fonds pour construire un hôpital parce que tous deux croient que Dieu s'est incarné et s'est laissé crucifier pour racheter nos péchés. Les États s'enracinent dans des mythes nationaux communs. Deux Serbes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent risquer leur vie pour se sauver l'un l'autre parce que tous deux croient à l'existence d'une nation serbe, à la patrie serbe et au drapeau serbe. Les systèmes judiciaires s'enracinent dans des mythes légaux communs. Deux juristes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins associer leurs efforts pour défendre un parfait inconnu parce que tous deux croient à l'existence des lois, de la justice, des droits de l'homme et des honoraires qu'ils touchent. Pourtant, aucune de ces choses n'existe hors des histoires que les gens inventent et se racontent les uns aux autres. Il n'y a pas de Dieu dans l'univers, pas de nation, pas d'argent, pas de droit de l'homme, ni loi, ni justice, hors de l'imagination commune des êtres humains. Nous comprenons aisément que les primitifs cimentent leur ordre social en croyant aux fantômes et aux esprits et se rassemblent à chaque pleine lune pour danser autour du feu de camp. Ce que nous saisissons mal, c'est que nos institutions modernes fonctionnent exactement sur la même base. Prenez l'exemple du monde des entreprises. Les hommes d'affaires et les juristes modernes sont en fait de puissants sorciers. Entre eux et les chamans tribaux, la principale différence est que les hommes de loi modernes racontent des histoires encore plus étranges. La légende de Peugeot nous en offre un bon exemple. De Paris à Sydney apparaît, sur des automobiles, des camions et des mobilettes, une icône qui ressemble un peu à l'homme-lion de Stadel, la figurine qui orne le capot des Peugeot, l'un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants d'Europe. Au début, Peugeot était une petite affaire familiale de Valentigney, un village situé à 300 km seulement de la grotte de Stadel. Aujourd'hui, la société emploie plus de 200 000 personnes à travers le monde, la plupart étant de parfaits étrangers les uns pour les autres. Ces étrangers coopèrent si efficacement qu'en 2008, Peugeot produisait plus de 1,5 million de véhicules, pour un chiffre d'affaires tournant autour de 55 milliards d'euros. En quel sens pouvons-nous dire que Peugeot SA, nom officiel de la société, existe? Il existe quantité de véhicules Peugeot, mais les véhicules et la société sont deux choses différentes. Même si toutes les Peugeot du monde étaient simultanément mises à la ferraille et vendues au prix du métal, Peugeot SA ne disparaîtrait pas. Elle continuerait de produire de nouvelles voitures et de publier son rapport annuel. La compagnie possède des usines, des machines et des showrooms, et elle emploie des mécaniciens, des comptables et des secrétaires. Mais tous ceux-ci réunis ne font pas pour autant Peugeot. Une catastrophe pourrait tuer chacun de ses employés, détruire toutes ses chaînes de montage et les bureaux de ses dirigeants. La société pourrait malgré tout emprunter, embaucher de nouveaux employés, construire de nouvelles usines et acheter de nouvelles machines. Peugeot à des dirigeants et des actionnaires qui ne constituent pas davantage la société. Tous les dirigeants pourraient être écartés, toutes les actions vendues. La compagnie n'en demeurerait pas moins intacte. Non que Peugeot SA soit invulnérable ou immortel. Si un juge devait ordonner la dissolution de la compagnie, ses usines resteraient debout et ses ouvriers, ses comptables, ses dirigeants et ses actionnaires continueraient de vivre. Mais Peugeot SA disparaîtrait immédiatement. Bref, Peugeot SA semble n'avoir aucune relation essentielle avec le monde physique. existe-t-elle vraiment? Peugeot est une création de notre imagination collective. Les juristes parlent de fiction de droit. On ne saurait la montrer du doigt, ce n'est pas un objet matériel. En revanche, elle existe en tant qu'entité juridique. Au même titre que vous et moi, elle est liée par les lois des pays dans lesquels elle opère. Elle peut ouvrir un compte en banque et posséder des biens. Elle paye des impôts, elle peut être poursuivie, même indépendamment des personnes qui la possèdent ou qui travaillent pour elle. Peugeot appartient à un genre particulier de fiction juridique, celle des sociétés anonymes à responsabilité limitée. L'idée qui se trouve derrière ces compagnies compte parmi les inventions les plus ingénieuses de l'humanité. Des millénaires et des millénaires durant, Homo sapiens a vécu sans elles. Pendant la majeure partie de l'histoire, seuls ont pu posséder des biens des hommes de chair et de sang, du genre qui se tient sur deux jambes et a un gros cerveau. Si dans la France du XIIIe siècle, Jean montait un atelier de chariots, l'affaire et lui ne faisaient qu'un. Si un chariot qu'il avait fabriqué se brisait une semaine après la vente, l'acheteur mécontent l'aurait poursuivi personnellement. Si Jean avait emprunté 1000 pièces d'or pour monter son atelier, puis fait faillite, c'était à lui de rembourser en vendant ses biens personnels, sa maison, sa vache, sa terre. Il pouvait même être obligé de vendre ses enfants, les vouant ainsi à la servitude. S'il ne parvenait à couvrir sa dette, il pouvait être jeté en prison par l'État ou réduit en esclavage par ses créanciers. Il était totalement comptable sans limite pour toutes les obligations contractées par son atelier. Si vous aviez vécu à cette époque, vous y auriez probablement réfléchi à deux fois, voire beaucoup plus, avant de lancer votre entreprise. De fait, cette situation légale décourageait l'esprit d'entreprise. Les gens avaient peur de lancer de nouvelles affaires et de prendre des risques économiques. Valait-il la peine de risquer de plonger les siens dans une misère noire? De là vient que l'on se mit collectivement à imaginer l'existence de sociétés à responsabilité limitée, des sociétés indépendantes des personnes qui les lançaient, investissaient en elles ou les dirigeaient. Au cours des derniers siècles, ces sociétés sont devenues les principaux acteurs de l'arène économique, et nous nous y sommes à ce point habitués que nous oublions qu'elles n'existent que dans notre imagination. Aux États-Unis, cette société anonyme à responsabilité limitée porte le nom de corporation, ce qui est ironique quand on sait que le mot vient du latin corpus, corps, la seule chose que ne possèdent pas ces sociétés. Alors même qu'elles n'ont pas de corps, le système juridique américain les traite comme des personnes juridiques, comme des êtres de chair et de sang. Tel était aussi le cas du système français en 1896, quand Armand Peugeot, qui avait hérité de ses parents un atelier produisant des ressorts, des scies et des bicyclettes, décida de se lancer dans l'automobile. S'il donna son nom à la société, celle-ci resta indépendante de lui. Si une voiture tombait en panne, l'acheteur pouvait poursuivre Peugeot, mais pas Armand Peugeot. Si la société empruntait des millions avant de faire faillite, Armand Peugeot ne devait pas le moindre franc à ses créanciers. Après tout, le prêt avait été accordé à Peugeot, la société, non pas à Armand Peugeot, l'Homo sapiens. Armand Peugeot est mort en 1915. La société Peugeot est toujours en vie. Comment, au juste, Armand Peugeot, l'homme, a-t-il créé la société Peugeot? En gros, comme les prêtres et les sorciers ont créé dieux et démons tout au long de l'histoire, et comme des milliers de curés français créaient encore le corps du Christ chaque dimanche dans leur église paroissiale. Il s'agissait, au fond, de raconter des histoires et de convaincre les gens d'y croire. Dans le cas des curés, l'histoire cruciale était celle de la vie et de la mort du Christ, telle que l'Église catholique la raconte. Selon cette histoire, si le prêtre, revêtu de ses habits sacerdotaux, prononce solennellement les bons mots au bon moment, le pain et le vin se transforment en chair et en sang du Christ. « Hoc est corpus meum !» s'exclamait le prêtre. « Ceci est mon corps !» Et « hocus pocus !» le pain devenait chair. Voyant que le prêtre avait assidûment et convenablement suivi la procédure, des millions de catholiques fervents se conduisaient comme si Dieu était réellement présent dans le vin et le pain consacré. Dans le cas de Peugeot SA, L'histoire cruciale est celle du code de loi français, fruit du travail des parlementaires. Selon les législateurs français, si un juriste certifié suivait la liturgie et les rituels de rigueur, écrivait les charmes et serments requis sur un bout de papier merveilleusement décoré et apposait sa signature et son paraphe au bas du document, alors, hocus pocus, une nouvelle société était constituée. Quand en 1896, Armand Peugeot voulut créer sa société, il chargea un juriste de suivre cette procédure sacrée. L'homme de loi, ayant exécuté les bons rituels et prononcé tous les charmes et serments requis, des millions de Français se conduisirent comme si la société Peugeot existait vraiment. Raconter des histoires efficaces n'est pas facile. La difficulté n'est pas de raconter l'histoire, mais de convaincre tous les autres d'y croire. Une bonne partie de l'histoire tourne autour de cette question. Comment convaincre des millions de gens de croire des histoires particulières sur les dieux, les nations ou les sociétés anonymes à responsabilité limitée? Quand ça marche, pourtant, cela donne aux sapiens un pouvoir immense, parce que cela permet à des millions d'inconnus de coopérer et de travailler ensemble à des objectifs communs. Essayez donc d'imaginer combien il eût été difficile de créer des États, des églises ou des systèmes juridiques si nous ne pouvions parler que de ce qui existe réellement, comme les rivières, les arbres et les lions. Au fil des ans, a été tissé un réseau d'histoires d'une incroyable complexité. Dans ce réseau, des fictions comme Peugeot non seulement existent, mais elles accumulent un immense pouvoir. Dans les cercles universitaires, le genre de choses que les gens créent à travers ce réseau d'histoires porte le nom de fiction, construction sociale ou réalités imaginaires. Une réalité imaginaire n'est pas un mensonge. Je mens quand je dis qu'il y a un lion près de la rivière, alors que je sais parfaitement qu'il n'y en a pas. Mentir n'a rien de très particulier. Les singes verts et les chimpanzés peuvent mentir. On a observé un singe vert crier « Attention, un lion !» alors qu'il n'y avait pas de lion dans les parages. L'alerte avait l'avantage d'effrayer un comparse qui venait de trouver une banane que le menteur put conserver pour lui seul. Contrairement au mensonge, une réalité imaginaire est une chose à laquelle tout le monde croit. Tant que cette croyance commune persiste, la réalité imaginaire exerce une force dans le monde. Très probablement, le sculpteur de la grotte Stadel pouvait sincèrement croire à l'existence de l'esprit tutélaire homme-lion. Certains sorciers sont des charlatans, mais la plupart croient sincèrement à l'existence de dieux et de démons. La plupart des millionnaires croient sincèrement à l'existence de l'argent et des sociétés anonymes à responsabilité limitée. La plupart des défenseurs des droits de l'homme croient sincèrement à l'existence des droits de l'homme. Personne ne mentait quand, en 2011, les Nations Unies exigèrent du gouvernement libyen qu'il respecte les droits de l'homme de ses citoyens, alors même que les Nations Unies, la Libye et les droits de l'homme sont des fictions nées de notre imagination fertile. Depuis la révolution cognitive, les sapiens ont donc vécu dans une double réalité. D'un côté, la réalité objective, des rivières, des arbres et des lions. De l'autre, la réalité imaginaire des dieux, des nations et des sociétés. Au fil du temps, la réalité imaginaire est devenue toujours plus puissante, au point que de nos jours, la survie même des rivières, des arbres et des lions dépend de la grâce des entités imaginaires comme le Dieu Tout-Puissant, les États-Unis ou Google.